veiller à notre existence physique, pas simplement de nous défendre, pas simplement d'augmenter notre puissance militaire, d'affirmer ce droit, et de l'affirmer non seulement par la parole, mais aussi par les actes. Et c'est pourquoi le nouveau gouvernement israélien s'attache tellement à déclarer et à faire dans le domaine de l'implantation juive dans ce que l'on appelle en France les territoires occupés, que ce gouvernement considère comme des territoires libérés. Car ces territoires font partie de ce terroir national que nous et les Arabes palestiniens revendiquons. C'est la même Palestine, c'est la même terre d'Israël. Si ces territoires font partie de la terre d'Israël, nous ne pouvons pas les mettre entre parenthèses. Nous ne pouvons pas dire, bon d'accord, ça fait partie de la terre d'Israël, mais nous les laissons de côté, nous n'y touchons pas. Puisqu'ils sont à nous, puisque nous les considérons comme nôtres, puisqu'ils font partie du terroir, puisqu'ils font partie du territoire national, nous sommes tenus, étant donné l'attitude du monde arabe à notre égard, d'affirmer ce lien, de l'affirmer, d'en parler et d'agir. Le jour où le monde arabe admettrait, je crois que c'est un jour qui n'est pas proche, admettrait l'existence de la légitimité de l'existence d'un État d'Israël au Proche-Orient sur une parcelle quelconque de ce territoire, ce problème deviendrait tout à fait secondaire.
Non, mais là, il est bon peut-être de poser la question qui se pose très souvent. Dans la mesure où Israël a envie d'arriver à un règlement avec les Arabes qui l'entourent, qu'ils soient palestiniens ou pas, ou les États arabes, que ce soit la Jordanie ou ailleurs, est-ce que le fait de procéder à des implantations juives dans les territoires occupés actuellement ne constitue pas une entrave à la recherche d'un règlement? C'est comme ça que la question se pose bien souvent, et ce n'est pas le fait que l'implantation constitue, aux yeux d'Israël en tous les cas, une légitimation du lien d'Israël à ces territoires-là qui font partie des Rets Israël ou de la Palestine, et qui peut contribuer à créer la détente qui pourrait, elle, amener peut-être à des solutions.
Mais alors nous en revenons à présenter le problème comme un problème d'ordre territorial. Et c'est ce que la propagande arabe s'efforce de faire depuis 1967, comme si le conflit israélo-arabe était né en 1967. Il y a eu une guerre, on ne sait plus pourquoi, n'est-ce pas? On ne dit plus pourquoi cette guerre a eu lieu.
Mais il faudrait le dire.
Il faudrait le rappeler, n'est-ce pas? Nous savons tous, et je pense que nos auditeurs le savent aussi, que le monde arabe, à la veille de juin 1967, a essayé de liquider l'existence indépendante, l'existence souveraine de l'État d'Israël, de le liquider par les armes. Et Israël, évidemment, s'est défendu par cet acte d'autodéfense, est arrivé à occuper certains territoires qui ne faisaient pas partie de son territoire jusque-là. Alors maintenant, on nous présente depuis 10 ans le problème israélo-arabe comme un problème de territoires occupés, et que tout cela c'est un problème territorial, et qu'il y a une population dans ces territoires. Cette population-là, tout à coup, depuis l'occupation israélienne, elle a un problème d'identité nationale, et c'est nous, c'est à cause de nous, si nous sommes l'épine, n'est-ce pas, au Proche-Orient, c'est nous qui sommes les empêcheurs de tourner en rond, et c'est à cause de cette occupation, à cause de cette guerre de 1967, dont on oublie les raisons, que le conflit existe.
Je crois qu'il n'est pas mauvais à ce propos de rappeler que l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, n'est pas née après l'occupation des territoires de 67, mais en janvier 1965. Ici, tout près de nous, à Jérusalem même, cette organisation est née, dont l'objectif est de libérer la Palestine. Or, quelle était la Palestine occupée avant, en 1965? Je crois que la situation est claire, donc l'argument que tu sors, selon lequel Israël a débordé du territoire qui était le sien avant 67, est une théorie qui n'a jamais été admise par le monde arabe et en premier lieu par l'OLP. Ce dont il est question, c'est bien ce qui contestait, c'est bien le territoire qu'Israël possédait avant 67.
Non, absolument, je suis parfaitement d'accord avec toi. Le problème, c'est ce qui se passe dans l'esprit des gens en France, dans le monde occidental. Souvent, on imagine que le problème, c'est ça, c'est qu'Israël a occupé quelques arpents de Palestine.
Oui, je crois qu'il faudrait ajouter également que la charte palestinienne, la première version de la charte palestinienne date de 1964, et que cette charte est fondée sur le postulat selon lequel, puisqu'il n'existe pas de peuple juif, les 3 millions de juifs qui se trouvent ici sont l'expression d'un phénomène colonial, et il s'ensuit donc que la destruction de cet État n'est autre chose que la libération du monde arabe du colonialisme. Mais tout de même, je suis d'accord, nous sommes tous d'accord là-dessus, que le problème n'est pas existentiel, mais que l'essence, c'est la reconnaissance de la légitimité de l'existence d'un nationalisme juif, d'un mouvement national juif, et donc d'un État juif qui en est l'expression, par les États arabes, les pays arabes, le monde musulman, en fait, et par nos voisins immédiats, qui, eux, sont palestiniens. C'est un élément essentiel, je crois qu'il doit être bien expliqué. La théorie de l'OLP actuelle, celle de la destruction d'un État juif, de la création d'un État qui s'appelle démocratique et laïque, évidemment, parce
mais arabe.
Bien sûr, démocratique et laïque, parce que la démocratie, comme tout le monde sait, est florissante dans le monde arabe. Il n'y a que des démocraties dans le monde arabe. Il n'y a que le laïcisme dans le monde arabe, évidemment. Les choses sont bien connues. Mais, en clair, cela veut dire la destruction de l'État d'Israël. Même si la population juive, si nous, les Israéliens, devrions rester sur place, ce qui n'est pas tout à fait évident, ce qui ne l'était pas en 67, ce n'est pas ce qui est écrit d'ailleurs dans la charte palestinienne. Il faudrait tout de même, une fois pour toutes, c'est dommage que nous n'ayons pas la charte palestinienne sous les yeux ici, mais de la lire une fois à la radio, pour que les Français sachent ce qui est marqué sur cette charte qui est l'élément de base et qui formule les objectifs du mouvement palestinien. Les objectifs du mouvement palestinien, c'est la destruction de l'État d'Israël. Ça s'appelle la destruction des structures sionistes, ça s'appelle la destruction du colonialisme, et cela signifie la destruction de l'autonomie juive.
N'oublions pas que les États arabes se sont tous déclarés solidaires de cette lutte.
Oui, évidemment. Et d'ailleurs, la Syrie, aujourd'hui, parle d'une possibilité qu'on ne participe même pas à Genève, parce que les représentants palestiniens à Genève ne seraient pas Arafat, mais seraient des Palestiniens de Cisjordanie. Je vois d'ailleurs très mal pourquoi le maire de Naplouse ou le maire de Hebron serait moins-il représentatif des Palestiniens qu'Arafat. Enfin, ça, c'est une question politique. Mais je voudrais revenir tout de même, puisque le problème n'est pas seulement un problème qui est essentialiste, mais qu'il y a des problèmes politiques, qu'il y a des questions politiques qui se posent, je voudrais revenir à la question posée par André Semama, celle des implantations israéliennes en Cisjordanie. Personnellement, je n'ai aucun doute sur la légitimité historique de ces implantations. Mais la question n'est pas historique, la question est politique. Politiquement, je crois que les implantations en Cisjordanie sont aujourd'hui néfastes. Elles sont néfastes parce qu'elles créent un climat qui n'est pas propice à l'engagement des conversations de paix qui peut, à certains égards, fournir, si vous voulez, des armes à ceux qui voudraient que Genève n'aboutisse en fait à rien. Alors que nous voulons que Genève aboutisse à un règlement de paix. Mais un règlement de paix qui soit un règlement tel que des gens normalement constitués l'entendent. C'est-à-dire que des relations se créent telles qu'elles existent aujourd'hui en Europe, entre des États et des pays et des peuples qui se considèrent comme en état de paix. Mais il est ridicule de demander aux Israéliens de rendre le seul atout qu'ils possèdent dans leur jeu pour une vague déclaration qui ne serait pas autre chose qu'un cessez-le-feu. Ce sont des détails dans lesquels je ne sais pas si nous devons entrer ou non, mais ce qui est essentiel, c'est de bien montrer qu'il y a un problème de reconnaissance beaucoup plus des Israéliens par les Palestiniens que des Palestiniens par les Israéliens. En tout cas, je ne pense pas que vous trouviez beaucoup de gens dans les pays arabes, et notamment à l'OLP, puisqu'on les considère aujourd'hui, certains la considèrent comme le représentant des Palestiniens, qui vous tiennent le langage que nous vous tenons ici, qui pensent de la façon dont nous pensons nous. Il faut bien mettre en évidence cette asymétrie dont Manitou a parlé tout à l'heure. Mais il y a un problème politique également, il y a un problème politique au-delà du problème de fond. Et là, il faut bien montrer que les implantations israéliennes en Cisjordanie, évidemment, ne sont pas bonnes pour essayer de résoudre le conflit.
Il faut montrer, mais je ne vois pas en quoi vous l'avez montré, parce que, à mon sens, c'est tout à fait le contraire. On pourrait, bien sûr, à partir du moment où on dit que les implantations sont mauvaises pour créer un climat de négociation, on peut aller plus loin. On peut dire, comme par exemple le fait le ministre égyptien des Affaires étrangères, que l'immigration juive en Israël est mauvaise pour instaurer un climat de paix.
Il y a tout de même, il faut être rationnel. On peut dire que le fait même qu'il y a des juifs, c'est très mauvais pour la paix au Proche-Orient. C'est beaucoup mieux qu'il n'y aurait pas de juifs.
Je pense même que c'est le fond du problème.
C'est le fond du problème, c'est parce qu'il y a un État d'Israël qui a un conflit.
Oui, mais alors, là, on entre dans un débat dans lequel, pour moi, c'est une règle d'or de ne m'engager jamais. Je ne m'engage pas dans un débat qui discute de l'existence du peuple juif ou du droit de l'existence du peuple juif, dans la même mesure que je n'exige pas des Français ou des Espagnols de s'engager dans un débat sur la légitimité de l'existence des Français et de la France. Pour moi, c'est un débat qui n'existe pas, je n'en parle pas, je refuse de m'y engager. Totalement.
Bon, mais alors tu parles uniquement des problèmes d'ordre existentiel, c'est-à-dire de la réelle politique. Qu'est-ce qu'Israël doit faire aujourd'hui pour ou ne doit pas faire pour ?
Il me semble, voyez-vous, que tout cela prend une importance politique grave dans les péripéties des négociations que nous souhaitons voir aboutir sur une conférence de paix, à cause de la manière dont l'opinion publique internationale, et c'est vrai en particulier dans son équation personnelle pour l'opinion publique française, réagit, nous semble-t-il, nous ici, un tout petit pays de 3 millions d'habitants, avec des dimensions planétaires qui nous étonnent. Il y a 1000 problèmes très graves qui se posent au monde et qui se posent à l'ONU, mais nous avons l'impression que l'opinion publique internationale fait surtout caisse de résonance dès qu'il s'agit des problèmes du Moyen-Orient et de l'avenir de ce qui se passe dans ce tout petit territoire. Ce serait un débat immense et important, et qui devrait rassembler différents éléments de tous ordres, politiques, historiques.
Mais il y a peut-être à cela un jeu joué par les Arabes qui ont greffé sur ce problème du Proche-Orient des choses qui sont d'un intérêt vital pour le monde entier, le pétrole.
Exactement, mais bien entendu, ça c'est l'aspect économique. Mais ça nous reste quand même un mystère. Je pense que les historiens de l'avenir se pencheront avec beaucoup de perplexité sur ce fait que, alors que des dossiers très importants concernent la population de la planète, finalement, le plein feu, le foyer de l'attention des grandes civilisations contemporaines et hypertrophie des problèmes qui, pour nous, sont des problèmes de détail municipal. Que se passe-t-il? Alors, je crois que là, bien sûr, il y a une espèce de résonance des sources très profondes et très anciennes de la civilisation chrétienne, d'une part, qui a ses sources dans l'identité hébraïque d'il y a 2000 ans de ce pays, de la civilisation musulmane comme telle, et puis il y a cette incidence de la mise en question des rapports entre les évidences morales et intellectuelles de base et les nécessités de l'intérêt économique dans la civilisation contemporaine. Je crois que l'existence de l'État juif aujourd'hui, sans l'avoir voulu expressément, déclenche peut-être, si vous voulez, déclenche indirectement une mise en question des catégories politiques de la civilisation contemporaine. On ne peut pas laisser sous silence, comme André vient de le faire, l'élément pétrole dans tout ce problème. Pourquoi des questions de détail municipal deviennent des affaires planétaires? C'est parce qu'il y a des intérêts économiques en jeu, mais qui n'ont rien à voir strictement avec le problème de fond, les droits réciproques des Palestiniens et des Israéliens. Je pense que l'opinion publique française doit être alertée à cela, sans parler des intérêts des femmes.
Elle est probablement alertée, consciente, mais n'est plus rien.
Le but, c'est la paix. Pour que cette paix soit durable, sinon éternelle, de quelle garantie...
Pour éternelle, c'est la paix du cimetière.
De quelle garantie a besoin Israël?
D'abord, que soit reconnue la légitimité de son existence dans ce pays et que l'État d'Israël soit admis par ses voisins. Que l'on reconnaisse qu'il existe une nation juive comme il existe un peuple juif et que ce peuple juif a le droit de vivre dans un état qui est le sien. Et à partir de là, je crois que...
Tout est possible.
Tout est possible, absolument. Tout arrangement, toute négociation. Puisque, rappelons-le, lorsque les Nations Unies ont décidé du partage, le morceau de territoire donné à Israël était infime. Les Juifs ont accepté. L'État d'Israël, fondé par les sionistes sur ce pays, se limitait au tracé...
12 000 km².
À peu près 12 000 km², au tracé fixé par les Nations Unies. Le refus est venu des Arabes depuis 1948 et n'a jamais cessé. Et depuis 1948 jusqu'à ce jour, l'État d'Israël n'a jamais eu de frontière, dans la mesure où une frontière, c'est une ligne de démarcation qui est reconnue par les riverains. Or, jamais les voisins d'Israël n'ont reconnu son existence, donc il n'y a pas de frontière qui entoure le pays, il y a simplement des lignes de démarcation qui sont des lignes d'armistice ou actuellement des lignes du cessez-le-feu. Le jour où Israël sera entouré de frontières, avec tout ce que ce mot signifie dans, comme sens juridique, comme sens légal, je crois qu'un pas énorme sera fait dans le sens de la paix, quel que soit l'emplacement où passe cette frontière, mais qu'il y a enfin une frontière et qu'Israël puisse retrouver la paix dans cette frontière, à ce moment-là, à mon avis, beaucoup, beaucoup de problèmes seraient réglés.
Et pensez-vous que l'on ait bien compris en France l'émotion, la colère, l'inquiétude suscitée en Israël par les récentes déclarations du président Carter ?
Oui, mais là, nous entrons alors justement dans un problème du quotidien. Le président Carter fait beaucoup de déclarations. Ça dépend à laquelle on se réfère. Oui. Il y en a qui dépassent de très loin
la veille de l'émission et on pensera
toutes les espérances d'Israël. Il faudrait qu'on se rende compte de nouveau, juste comme dit Emmanuel, à quelques minutes de l'émission pour savoir s'il s'agit de la toute dernière déclaration de Carter. Parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas ce qu'il va dire encore.
Mais
la plus récente, celle que nous avons connue lors d'un débat au Parlement au sujet de l'accord israélo-américain, bah, la position de Carter paraissait assez favorable aux thèses israéliennes. Et si Carter définit la notion de paix qu'il devrait y avoir entre Israël et les Arabes, elle dépasse de très loin tout ce que tous les gouvernements israéliens ont jamais exprimé. Pour Carter, espérer avec certitude. Ce que Carter définit comme étant la paix, c'est ce que Zeev a tout à l'heure dit, qu'il y ait entre Israël et ses voisins des rapports semblables à ceux qui existent aujourd'hui entre la France et la Belgique, l'Allemagne et l'Italie, et la France et l'Allemagne, enfin entre comme il existe en Europe, c'est-à-dire frontières ouvertes, échanges diplomatiques, culturels, économiques, touristiques, c'est ce qu'a dit Carter. Donc à ce moment-là, dans cette déclaration de Carter, elle est applaudie par tout le monde en Israël. Mais lorsque Carter envisage parfois de reconnaître une légitimité palestinienne sur certaines parties du territoire, à ce moment-là, les gens poussent de hauts cris, puisque les Palestiniens n'ont jamais admis, eux, l'existence d'Israël. Donc, va-t-on vers une solution imposée ? 3 jours après, Carter dit le contraire. Il n'a jamais été question pour moi d'imposer une solution. Au contraire, Israël peut compter sur mon appui le plus total. Alors, à cette question, il faut savoir de quelle déclaration Carter il est question pour savoir répondre.
Je vous ai allusion à celle des droits légitimes des Palestiniens.
La déclaration commune américano-soviétique. Ouais. Le fait que l'on dise que les Palestiniens ont des droits légitimes n'est pas fondamentalement contraire à ce que nous avons tous exprimé ici. Je répète ce que vous disiez tout à l'heure.
Ce n'est pas contraire du tout. Je suis d'accord
absolument
avec chaque mot exprimé dans sa déclaration, ce qui concerne les droits légitimes des Palestiniens.
Je suis parfaitement d'accord avec toi. Il n'y a aucune contestation. C'est-à-dire, le problème, c'est l'interprétation politique de cette formule. Pas son interprétation. Si on utilise le dictionnaire et qu'on regarde ce que veut dire le mot droit et ce que veut dire le mot légitime, nous sommes d'accord. Le problème, c'est qu'est-ce que les Américains et les Soviétiques entendent par là ? Est-ce que derrière cette formule ne se cache pas la création d'un État croupion palestinien, un troisième État entre Israël et la Jordanie ? Et si c'est cela que l'on veut faire, alors là, bien sûr, le tollé général est le refus de la part d'Israël.
Est-ce qu'Israël n'est pas candidat au suicide ? Je pense que cela doit être entendu de façon très claire.
Avant de venir voir, j'ai demandé à quelques personnalités françaises s'ils avaient des questions à poser. Il y a le professeur Laborie, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un grand biologiste, qui m'a dit ceci. Ne devrait-on pas tout faire en se servant des caractéristiques culturelles des nations pour progresser vers une planétisation de l'espèce humaine?
Tout le monde est d'accord, je suis persuadé que tout le monde est d'accord là-dessus.
Pour un biologiste, la combinatoire biologique et culturelle, c'est-à-dire le métissage culturel, est le seul moyen d'évolution de l'humanité.
Oui, vous savez que les Juifs sont les grands internationalistes de l'univers. On nous a appelés souvent, avant l'existence indépendante de l'État d'Israël, on traitait les Juifs de cosmopolites. C'était un mot péjoratif.
C'était la grande... En Union soviétique, on allait en Sibérie pour 10 ans parce qu'on était cosmopolites. Et les cosmopolites, en général, ce n'étaient pas les Géorgiens, c'était les Juifs. Ce n'étaient pas les Russes blancs ou les Ukrainiens.
L'idée d'universalité est une idée qui est profondément ancrée dans la tradition, dans la culture juive. Le problème, c'est un problème de réel politique. Nous avons souvent fait les frais de cette idéologie. Malheureusement, nous ne voulons pas être les cochons d'Inde, nous ne voulons pas être dans les éprouvettes, nous ne voulons pas être les premiers dans le monde, n'est-ce pas, à faire l'épreuve de ce qui jusqu'à présent n'a jamais marché, n'a jamais réussi. C'est-à-dire la fusion de deux peuples, de plusieurs peuples, en une entité qui, malheureusement, aujourd'hui, il y a au Proche-Orient, il y a dans le monde des nations. Ces nations s'expriment, se définissent en tant que telles. Évoluer vers l'internationalisme, tout le monde est pour. Nous sommes prêts à donner notre apport dans ce sens, mais ne pas être les premiers à faire peut-être les frais.
Je vous rappellerai également qu'à quelques pas de chez nous, les Turcs et les Grecs se sont entretués pendant assez longtemps, qu'au Canada, le Québec est sur le point de faire sécession, que les problèmes nationaux ne semblent pas avoir été totalement résolus, certainement pas la satisfaction de tout le monde. Je trouve assez curieux qu'on vienne dans cette région tellement névralgique, après, avec un passé tellement chargé, et que l'on pose la question à une collectivité qui, plus qu'aucune autre collectivité dans le monde aujourd'hui, est en danger. Il n'y a pas d'autres collectivités humaines qui se trouvent face à face avec un danger aussi grave, aussi réel que celui, que la situation dans laquelle se trouve Israël. Après tout, nous sommes ici 3 millions seulement. Nous ne sommes que 3 millions. Nous devons, à cause de la situation objective, entretenir une armée qui est plus puissante que l'armée française et anglaise réunies, et une armée de l'air qui est la 8e au monde, je crois, etc. etc.
Mais, et nous ne sommes pas fiers.
Ce n'est que grâce à l'effort de tous les jours fourni par l'ensemble de la population. Nous ne sommes pas les premiers, si vous voulez, à pouvoir donner une réponse affirmative à ce vœu qui est notre vœu, comme il est celui de tous les hommes de bonne volonté, je pense.
C'est une question qui pourrait être aussi bien posée d'ailleurs aux Basques et aux Bretons, oui. Éventuellement. Bien moins menacés que les Israéliens.
En tout cas, en ce qui nous concerne, peut-être en termes bibliques, au fond, le monde nous demande, pour des raisons d'intérêt économique, de jouer au sacrifice d'Isaac. Mais il faut bien lire la Bible attentivement. Le sacrifice d'Isaac n'a pas eu lieu. Et il n'aura pas lieu.
J'ai rencontré l'autre jour le professeur Leibovitch, que vous connaissez tous, je suppose. Et il me disait que pour lui, la solution ne pouvait être que qu'imposée par les grands, qu'il fallait éventuellement reconstruire le mur qui couperait Jérusalem en deux, et que le commencement de la fin, ça avait été la guerre des six jours pour l'État d'Israël.
Nous avons nos chers professeurs. C'est un peu, utopiste, mais pour bien comprendre ce que le professeur Leibovitch veut dire lorsqu'il dit ce qu'il dit, il faut connaître toute son œuvre, toute sa pensée, toute sa direction de pensée. Je ne veux pas dire que ce serait un peu péjoratif, que la position du professeur Leibovitch n'est que marginale, mais enfin, vous avez là un échantillon de la générosité d'esprit, ou de la générosité intellectuelle, d'un professeur de l'université Brecht, d'ailleurs prestigieux, par ailleurs. Et il ne parle pas du tout en tant que responsable politique de l'avenir, de la réelle politique, comme vous avez dit, et immédiate et à long terme. Mais je retiens un des termes que vous avez cité de lui, que les grandes puissances imposent. Je reviens finalement à ce qui a été indiqué tout à l'heure. C'est un problème à l'échelle planétaire. Et donc il faut réfléchir très profondément aux racines de ces dimensions du problème. Il est bien évident que le monde entier se trouve devant l'occurrence d'avoir à mettre en question l'existence du peuple juif ou pas, de nouveau, 30 ans après le nazisme. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut réfléchir à ces questions. Et nous vivons tous les jours le drame des chrétiens libanais. Et nous en tirons la leçon. Et nous savons très bien que nous n'avons pas le droit de commettre l'imprudence de nous mettre dans des pièges de ce type. La civilisation chrétienne tout entière semble... j'exagère peut-être un peu, mais les faits sont là, semble abandonner les chrétiens libanais à l'aide israélienne. À quelle aide abandonnera-t-elle les Israéliens eux-mêmes? Et comme je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas candidats au suicide et nous sommes pétris d'optimisme. Notre champ national s'appelle l'espérance. Il faut que, en particulier, le public français sache avec quel optimisme de détermination, nous vivons notre vie quotidienne en sachant très bien que nous sommes peut-être, et peut-être c'est aussi notre vocation, la conscience morale de l'humanité, ou disons le cas de conscience de l'humanité. Mais c'est à ce niveau que les vrais problèmes doivent être abordés.
Mais pas loin d'ici, je crois, à Chypre, il y a aussi une tragédie qu'a vécue la population grecque de l'île de Chypre, qui a été complètement chassée par l'invasion turque. Et aucune puissance n'est intervenue.
Personne n'en parle, les réfugiés grecs.
Les réfugiés grecs qui ont quitté leur maison et leur village parce que les intérêts des grandes puissances concordaient sur cette question.
Je voudrais vous poser une dernière question. Vous savez qu'on parle souvent en France des camps où pourrissent les Palestiniens. Qu'y a-t-il de vrai, qu'y a-t-il de faux?
Il y a un chef d'État arabe considéré comme modéré, Bourguiba, qui a même utilisé le terme de camp de concentration. Et il a dit, c'est une honte qu'il y ait des camps de concentration.
Je crois que c'est le moment peut-être de dire
dans lesquels, c'est une honte qu'il y ait des camps de concentration dans lesquels pourrissent des Arabes, nos frères. Et il a dit, c'est une honte pour qui? C'est une honte pour les pays arabes dans lesquels ces camps se trouvent. Il est certain que l'existence de l'État d'Israël et l'existence du conflit israélo-arabe a créé ce problème de réfugiés. C'est objectivement évident, nous ne pouvons pas le nier. Mais tous les problèmes de réfugiés que nous avons connus au XXe siècle ont été réglés. Ont été réglés, je ne dirais pas à la satisfaction générale, mais aucun réfugié de la Deuxième Guerre mondiale ne pourrit aujourd'hui dans des camps. Les réfugiés allemands ont été intégrés en Allemagne. Les réfugiés indiens et pakistanais ont été intégrés qui au Pakistan, qui en Inde. Or voilà des Arabes, n'est-ce pas, que le monde arabe considère comme des frères, qui arrivent en tant que réfugiés au Liban, en Syrie, en Égypte, en Jordanie, et qui sont maintenus pendant des dizaines d'années dans des camps, à qui on refuse la nationalité du pays d'accueil, soi-disant d'accueil, à qui on ne donne pas de travail, que l'on refuse totalement d'intégrer. Et ensuite, après 20 ans, après 30 ans, on se tourne vers Israël et on accuse.
Alors, je crois que les premiers qui essayaient à commencer à résoudre le problème de réfugiés, le problème économique et social que représentent les réfugiés, ce sont les Israéliens. Enfin, on peut aller aujourd'hui dans la bande de Gaza.
Oui, c'est peut-être bon de rappeler auparavant que dans les limites d'Israël de 67, il n'y avait pas de camps de réfugiés. Les camps de réfugiés existaient seulement dans les territoires arabes. Or, depuis qu'Israël est maître de certains de ces territoires-là, il y a eu cette intervention dont parle Zeev.
Oui, bien sûr. Non, vas-y, si tu le connais certainement mieux.
C'est une précision que les camps de réfugiés n'ont jamais existé.
N'ont jamais existé en Israël. Oh, si, il y avait des camps de réfugiés. C'était des camps de réfugiés juifs. Il faudra regarder les albums de photos ou les films du début des années 50, de voir les centaines de milliers de juifs arrivant d'Europe, d'Afrique du Nord, des pays du Proche-Orient et vivant dans des tentes, parce qu'il n'y avait pas, d'autre chose pendant des années. Ils ont vécu pendant des années, pendant de longues années, jusqu'à la fin des années 50. Ça a pu prendre 6, 7 ou 8 ans, 9 ans, avant qu'ils soient sortis de ces camps de réfugiés, mais c'était des Juifs.
Il faut admettre que l'existence des camps de réfugiés a en grande partie forgé dans le malheur ce sentiment d'identité nationale des Palestiniens, un sentiment qui, là, critères objectifs, je crois que ce sentiment n'existait pas, n'était pas largement, en tout cas, répandu au moment où l'État d'Israël a été créé, c'est-à-dire il y a 30 ans. On ne pouvait pas, je crois, parler d'un sentiment national palestinien largement répandu il y a 30 ans. Aujourd'hui, cela est un fait, et cela est un fait en grande partie à travers la souffrance subie dans les camps de réfugiés. Mais subie pourquoi ? Nous l'avons dit tous, n'est-ce pas, du fait du refus du monde arabe d'intégrer ses frères.
Voici terminé cette rencontre à Jérusalem. Je recevais, je vous le rappelle, le professeur Askenazi, le professeur Stenel, Emmanuel Alperin et André Semama. Dimanche prochain, je serai à Tel Aviv chez Rachel Limon.